Et bien évidemment, cette semaine, dans ces mêmes conversations avec Daniel Haber, Blaise van der Linden et lui-même sont revenus sur l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, vendredi dernier, ainsi que des conséquences de cette élimination. Voici ce qu'en pense Daniel Haber.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka ce matin. Alors, nous avons appris ce week-end l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Cette élimination, elle représente la fin d'une séquence. On a eu l'élimination d'Ismaël Haniyeh, chef du Hamas. Maintenant, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah. Quelle est la signification de cette longue séquence qui, selon vous, a débuté le 1er avril?
Oui, Israël a décapité les deux hydres qui le menaçaient le plus. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis un an, on parle, au fond, pendant les 10 premiers mois, uniquement de Gaza et du Hamas, et puis depuis quelques semaines, du Liban et du Hezbollah. Mais en réalité, on parle jamais de la vérité, qui est l'Iran. Et ça a été fait volontairement par l'Iran. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que les opinions publiques, guidées au fond par les médias internationaux, ont fait comme s'il fallait, comme on dit souvent, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. On a regardé les doigts. Mais au fond, ce qu'on peut dire qu'après cette séquence hezbollienne, qui vient confirmer la séquence du Hamas, l'Iran est nu. L'Iran voit disparaître ses deux protecteurs. Juste un mot pour dire ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe au Liban. Il n'y a plus de Gaza. Il n'y a plus de Hamas à Gaza. Alors, il repartira ailleurs, le Hamas, probablement Judée-Samarie où il est déjà, etc. Mais plus à Gaza où Israël est bien installé, surtout après la victoire de Rafah, il a scellé la frontière avec l'Égypte, qui est la cause de tous les maux. Donc il faut jamais oublier ça. Donc aujourd'hui on parle plus de Gaza, mais Gaza continue à faire le travail de destruction des tunnels, de la chasse aux derniers terroristes, avec l'espoir de retrouver les otages. On sait aujourd'hui que le Hamas n'a qu'une seule carte à jouer, celle des otages, pour transformer sa défaite militaire totale en victoire politique. Il n'est pas question pour Israël de leur accorder ce triomphe qui irait à l'encontre des intérêts les plus fondamentaux de l'État d'Israël. Donc, mais malheureusement pour les otages, il faut espérer une autre voie de sortie qui peut arriver. Pour le Hezbollah, il n'y a plus de Liban, mais il y avait déjà plus de Liban avant, à cause de la Syrie et à cause du Hezbollah. Et quand j'entends les commentaires parler d'une attaque d'Israël sur le Liban, en réalité, le Liban se réjouit de la disparition du Hezbollah, car cette disparition, si elle a lieu, c'est la seule chance pour le Liban de renaître. Pour le Liban de renaître. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Alors, l'ennemi d'Israël, qui est l'ennemi de l'Occident et qui est aussi l'ennemi des Arabes sunnites, c'est l'Iran. Et l'Iran avait annoncé la couleur il y a 45 ans déjà. Dès que la République islamique s'est mis en place, elle a dit « je veux la disparition de toute trace occidentale au Moyen-Orient et je veux imposer cette puissance de l'Empire perse ». Celle qui avait vaincu Babylone et permis aux Juifs de rentrer pour construire le Second Temple, celle qui avait tenu tête à l'Empire romain, c'est ça le projet iranien, d'être le continuateur de cet empire, avec en plus ce symbole religieux du chiisme, le vrai islam, celui du gendre du prophète Ali, et c'est ça qui donnait cette puissance à la fois militaire et spirituelle. Et la mort de Nasrallah, c'est la mort de ce guide spirituel de la milice la plus épouvantable de la région et peut-être même du monde, qui en même temps, on a oublié de le dire, est une organisation criminelle du trafic de drogue, avec des tentacules en Europe, en Amérique latine évidemment, en Afrique et un peu partout. Donc voilà, j'espère que tout le monde se réjouit.
L'élimination de Hassan Nasrallah, on l'a dit, elle représente donc la fin d'une longue séquence. Pourquoi cette fin intervient-elle maintenant?
Si vous voulez, l'Iran, qui avait l'intention de s'en prendre à Israël et à l'Occident dès sa naissance. Hein. Souvenez qu'à sa naissance, elle avait pris en otage l'ambassade américaine, a été retardée dans ses projets d'attaquer Israël par beaucoup de choses, la guerre avec l'Irak, la nécessité de constituer cet axe que le premier ministre israélien à la tribune des Nations Unies a appelé le curse, c'est-à-dire une malédiction. Ce bloc de quatre États, Iran, Irak, Syrie, Liban, qui cherche à déstabiliser le Moyen-Orient et le monde. Il a été aussi retardé par la guerre au Yémen, et puis parce qu'il préparait ses armes, c'est-à-dire les missiles, l'arme nucléaire, etc. Et donc il fallait attendre le bon moment. Le bon moment est arrivé dans l'analyse de l'Iran, au moment où Israël, finalement, avait une place trop bonne dans le monde. La start-up nation admirée partout, c'était intolérable pour les ayatollahs. Et puis il y avait surtout la perspective d'une signature d'un traité entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui permettait à l'Arabie de bénéficier de garanties solides de sécurité, de pouvoir ensuite donc s'allier avec Israël face à l'Iran. Et puis l'Iran lisait dans ce qui se passait en Occident un grand affaiblissement de l'Occident. Il y avait la campagne américaine, il y avait la division de l'Europe, et puis surtout il y a eu cette guerre en Ukraine qui a mobilisé les énergies de l'Occident sur l'Europe, qui a rapproché ce trio négatif Chine, Russie et Iran, et donc qui donnait la perspective à l'Iran de ne pas être seul dans sa bataille, et enfin la crise politique en Israël. Donc tout était propice à cette attaque du 7 octobre, donc était la main de l'Iran. Aujourd'hui, on le sait. Voilà pourquoi c'est maintenant.
On le dit depuis le début de cette guerre, dans Conversation et sur Radio Judaïka, l'ennemi principal, c'est l'Iran. Quelle est la stratégie au fond de l'Iran? Et sous question, Israël peut-il réussir à la stopper, cette stratégie?
Écoutez, la stratégie de l'Iran, c'est ce qu'on appelait, à juste titre, que Israël surtout a bien analysé comme une guerre d'usure. Dès le 8 octobre, en réalité, Israël ne se battait pas contre le Hamas seulement, mais il se battait contre les trois H, Houthis, Hamas, Hezbollah, et contre les trois M, les trois milices qui sont en Syrie, en Irak et en Judée-Samarie. Et donc c'est multifronts, ces six fronts qui attaquaient Israël simultanément, le faisaient à des degrés divers, très contrôlés, pour transformer au fond, pour éviter une guerre totale et plutôt mener une guerre d'usure avec comme objectif de déstabiliser l'économie israélienne. Et c'est réussi puisque les agences de notation continuent de dégrader la note israélienne. Donc Israël est touché dans son économie, c'est normal au bout d'un an de guerre. Elle a aussi touché sa société. La société israélienne est plus divisée que jamais, alors qu'elle devrait être unie. Là, peut-être que la mort de Nasrallah va permettre de réunir les énergies. Et donc, la stratégie d'Iran, c'était tout simplement cette guerre d'usure. Et donc, la stratégie d'Israël, c'était de sortir de cette guerre d'usure.
Eh bien, Daniel Haber, nous aurons évidemment l'occasion de revenir dessus lors de nos prochaines conversations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.